Vous écoutez, on lit pour vous.
Itinérance et déficience intellectuelle au Québec. Il y a péril en la demeure. Un texte d'Amélie Durand-Lot paru le 12 septembre 2024 dans Le Devoir. Le début du mois de septembre est marqué par la rentrée parlementaire, mais aussi par le retour des questions sociales dans l'espace public. Parmi celles-ci, l'itinérance reste une problématique omniprésente qui s'étend dans de nombreuses villes au Québec. Pourtant, le gouvernement ne donne que peu d'attention à l'itinérance et s'intéresse encore moins aux personnes ayant une déficience intellectuelle, malgré le fait que de plus en plus d'entre elles se retrouvent en situation de précarité résidentielle ou carrément dans la rue. Elles y seraient d'ailleurs surreprésentées selon certaines études. La tirette d'alarme a été sonnée il y a longtemps par de nombreuses organisations. Pourtant, la situation semble empirer. Il est plus que temps que les politiques changent et que le gouvernement agisse au plus vite en matière d'habitation et de soutien pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Des parcours variés vers l'itinérance. Plusieurs trajectoires peuvent mener à l'itinérance. Précarité financière et pauvreté, faible niveau d'instruction, rupture familiale, violence domestique, manque d'accès à des services de santé et de soutien appropriés, etc. Dans le cas des personnes ayant une déficience intellectuelle, à ces facteurs peuvent s'additionner le manque de milieux de vie adaptés à leurs besoins, de services de santé et de services sociaux appropriés, ainsi que l'isolement social et la stigmatisation. Des recherches indiquent que ces personnes sont également plus à risque d'être la cible d'actes criminels, agressions, violences, maltraitances, et encore plus quand la personne est une femme. Ces difficultés peuvent aussi être exacerbées par des difficultés à comprendre des informations complexes ou encore par des déficits de communication, compliquant la navigation dans les systèmes et services gouvernementaux. Yann Lou, un des porte-parole de la campagne de mobilisation en habitation « J'ai ma place », se confiait en expliquant « Si on vit dans un logement cher et insalubre et que le propriétaire ne fait rien, c'est compliqué pour moi d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. » Et le propriétaire me dit « Tu peux rien y faire, tu sais pas contacter le tribunal et tu vas perdre. » Cette lourdeur administrative, ça encourage les abus, ça nous aide pas à nous en sortir. Mis ensemble, ces facteurs font en sorte que certaines personnes ayant moins de soutien peuvent se retrouver en situation d'itinérance. Malheureusement, une fois en situation d'itinérance, ces personnes font souvent face à de nouveaux défis. Détresse psychologique, violence, consommation, criminalité de subsistance, etc. Ces situations font également augmenter les risques de comportements jugés problématiques, rendant ainsi plus difficile la réadaptation et le fait de trouver un milieu de vie adéquat permettant de sortir de la rue. Dans les faits, peu d'options existent pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent des troubles de comportement et essaient de sortir de la rue. Dans un tel contexte, s'en sortir relève quasiment du miracle. Prévenir l'itinérance en soutenant mieux les personnes. Cela fait des années que les milieux communautaires et académiques martèlent le même constat. L'itinérance n'est pas qu'une question de béton. S'il faut des logements, il faut aussi des services qui permettent de prévenir l'itinérance, ainsi que des services qui permettent la réintégration en société. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ne font pas exception à cette règle. Outre les actions nécessaires en lien avec la construction de logements sociaux et abordables, il importe donc que le gouvernement agisse et renforce les services sociaux dans la province. Par exemple, il est crucial de fournir aux personnes des milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires, mais aussi de miser sur des services de soutien forts et sur la mise en place de plans d'intervention individualisés. Ces mesures doivent être prises à un stade précoce, idéalement avant que l'itinérance ne devienne une réalité, afin de pouvoir s'adapter aux besoins changeants tout au long de la vie de l'individu. Il est également plus que temps que le gouvernement augmente le montant des prestations d'assistance sociale afin de permettre aux personnes en bénéficiant de sortir de la pauvreté. Se mobiliser pour le changement. Il est urgent que le Québec reconnaisse et aborde les besoins spécifiques des personnes ayant une déficience intellectuelle en lien avec l'itinérance. Le gouvernement devrait miser sur une approche intégrée qui inclut des politiques de logement abordables, des services sociaux accessibles et une coordination accrue entre les différents niveaux de gouvernement et les organisations communautaires. Dans les prochains mois, nous mènerons la campagne « J'ai ma place » en lien avec l'habitation et la déficience intellectuelle. Nous proposerons des solutions au gouvernement du Québec. Nous espérons que le gouvernement répondra à l'appel. Nous ne demandons qu'à collaborer pour améliorer la situation. S'il y a péril dans la demeure, il est encore temps d'agir pour éviter une crise plus grave. L'itinérance n'est pas une fatalité. Résoudre cette crise nécessitera toutefois une volonté politique, des ressources adéquates et une compréhension profonde des enjeux. En tant que société, nous avons le devoir de protéger les personnes les plus à risque de se retrouver en situation de vulnérabilité. Ignorer cette réalité, c'est non seulement laisser tomber ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi renoncer à notre responsabilité collective de bâtir un Québec inclusif et solidaire. C'était « Itinérance et déficience intellectuelle au Québec. Il y a péril en la demeure ». Un texte d'Émilie Durand-Lot paru le 12 septembre 2024 dans Le Devoir.
Ressources pour clientèle à besoins particuliers, un déménagement d'usagers qui inquiète. Un texte d'Éric Tremblay paru le 4 septembre 2024 dans Le Courrier du Sud. Le déménagement de 4 usagers qui vivent avec une déficience intellectuelle, DI, ou un trouble du spectre de l'autisme, TSA, et des parfois troubles graves du comportement, TC-TGC, met à risque ces personnes et les intervenants selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS. Le transfert de cette clientèle d'une résidence à assistance continue, RAC, de Belleuil, vers une ressource transitoire située à Longueuil a été rendu nécessaire en raison de travaux majeurs. Cette décision du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, CI3SMO, est temporaire et devrait durer entre 5 et 6 semaines. Malgré tout, l'APTS sonne l'alarme depuis plusieurs semaines. Elle laisse entendre que les adaptations requises se font au compte-gouttes, si bien que le milieu de vie est toujours inadéquat en raison des nombreux facteurs de risque toujours présents durant les travaux. Quand les travailleuses sont rendues à te dire qu'elles auraient préféré affronter la moisissure et la vermine à la RAC Jaunio, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, que de risquer de se faire blesser à Longueuil, ça en dit long sur la peur et l'angoisse qui les tenaillent sur leur milieu de travail, rapporte Isabelle Manta, représentante nationale de l'APTS en Montérégie. Le CI3SMO ne partage pas les inquiétudes de la partie syndicale. La sécurité de la clientèle étant une priorité pour notre organisation, nous nous sommes assurés que le milieu de vie temporaire était adapté à nos usagers ayant des troubles de comportement ou des troubles graves de comportement, TC-TGC, a-t-il répondu par courriel. Tout d'abord, les travaux requis pour adapter et sécuriser le milieu ont eu lieu avant le transfert et nous sommes en étroite collaboration avec le promoteur pour continuer à apporter des améliorations et des corrections lorsque des éléments sont soulevés par nos gestionnaires et nos intervenants. Nous avons aussi un gestionnaire sur place, en continu, qui assure que tout se déroule de façon saine et sécuritaire. Une clientèle en augmentation. la PTS, dit constater une augmentation de 220 % des usagers avec des besoins en RAC. Toutefois, les investissements ne permettent pas de répondre à la demande. Le gouvernement s'attend à ce que les usagers en niveau de soins alternatifs soient pris en charge dans les 40 à 72 heures à la suite d'une hospitalisation, ce qui oblige le CI3SMO à constamment improviser pour trouver des places, quitte à ce que le pairage ne soit pas adéquat, se désole Mme Manta. Mais plus on travaillera avec des bouts de chandelle, plus les usagers mettront de temps à gagner en autonomie et plus longtemps ça prendra pour libérer des places pour de nouveaux arrivants. À force de pelleter le problème en avant, on met tout le monde en danger, y compris des personnes vulnérables qui, commodément, ne disposent ni de la voix ni de la visibilité qui permettent d'être traitées dignement. Signe que les besoins sont grands. Le milieu de vie temporaire de Longueuil en deviendra un permanent dans l'inventaire du CI3SMO. Celui-ci aura la capacité d'accueillir 12 usagers adultes. Par ailleurs, dans un contexte où les besoins en hébergement ont beaucoup évolué au cours des dernières années, un plan clinique d'hébergement a été développé en 2023 et a été présenté aux instances syndicales, au comité des usagers, au regroupement DI-TSA, aux partenaires internes et externes, poursuit le CI3SMO. Ce plan prévoit l'ajout ou la transformation de milieux afin qu'ils soient mieux adaptés à notre clientèle TC-TGC, qui est en constante augmentation. C'était « Ressources pour clientèle à besoins particuliers, un déménagement d'usagers qui inquiète », un texte d'Éric Tremblay, paru le 4 septembre 2024 dans le Courrier du Sud.
Paracuda, le fabuleux défi de Wendy. Un texte de Marisol Saint-Onge, paru le 8 septembre 2024 dans Le Quotidien. D'emblée, j'adore le nom de cette nouvelle équipe de bateaux-dragons, Paracuda. Dans ma tête, j'entends aussitôt la chanson du groupe Heart, Barracuda. Sans réfléchir, je me dis que ça doit bien ramer sur le rythme entraînant du hit des années 70. Puis, je réfléchis. Je m'apprête à vous parler d'une passionnée de bateaux-dragons qui, en dépit de sa surdité, pratique son sport dans une équipe qu'elle a elle-même fondée. Wendy Gervais ne s'entraîne jamais avec de la musique dans les oreilles. Même si elle le voulait et qu'elle montait le volume au maximum, la jeune femme de 31 ans n'entendrait aucunement le son qui sort des écouteurs. Née avec une surdité totale de 120 décibels, ce n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'elle entend pour la première fois grâce à un implant cochléaire. Citation « Attention, entendre ne veut pas dire que je suis devenue une personne entendante. » « Je suis et serai toujours une personne sourde malgré l'implant cochléaire. » Fin de citation, me précise-t-elle. Contrairement aux appareils auditifs que l'on remarque plus souvent dans les oreilles de certains malentendants, le son n'est pas amplifié par l'implant. Le microphone que Wendy porte à la taille capte les sons produits dans son environnement pour être analysé par le processeur. Une fois codé, l'information auditive est transmise à la partie interne de l'implant cochléaire. Ce dispositif, inséré sous la peau derrière son oreille gauche, transforme les sons codés en impulsions électriques. Des électrodes stimulent alors le nerf auditif pour acheminer l'information au cerveau. Il faut beaucoup de temps et d'expérience pour décoder les sons transmis par l'implant et arriver à reconnaître chaque mot d'une phrase. L'implant cochléaire de Wendy lui permet d'entendre jusqu'à 30 % des bruits qui l'entourent. Elle doit donc lire sur les lèvres en tout temps ou avoir accès à un interprète en langue des signes, LSQ, pour pallier son handicap. On peut facilement s'imaginer que l'écoute d'une chanson doit être une tâche ardue et rarement agréable. J'ai rencontré Wendy Gervais à l'occasion de la deuxième édition de « La marche qui roule » en mai dernier, et tout de suite, j'ai été frappée par son magnifique sourire. Quand j'ai appris qu'elle était chirurgienne-dentiste à la clinique dentaire des Chenaux de Trois-Rivières, je n'ai pas été surprise. Puis, j'ai encore réfléchi. Toutes ces années d'études ont dû être tellement plus compliquées pour elle en raison de son handicap. Mais Wendy est une fonceuse et elle est la première chirurgienne dentiste vivant avec une surdité totale de naissance au Canada. Au travail, les relations sont très conviviales et l'équipe a même appris les signes de base. Chaque matin, les collègues la saluent en langue des signes québécoise et quand les hygiénistes dentaires viennent la chercher pour l'examen d'un patient, elle le lui indique en LSQ. Citation. J'ai une assistante dentaire qui est une merveille et qui m'accompagne au travail. C'est mon bras droit, car en plus d'être mon assistante, elle facilite la communication avec mes patients et moi. De plus, elle a appris plein de signes pour désigner les instruments dentaires, les numéros des dents et les surfaces. Fin de citation. Reconnaissante d'être bien entourée par une équipe extraordinaire, la docteure en médecine dentaire sait s'adapter au quotidien. Je ne suis donc pas surprise qu'elle se passionne pour le sport de rame, le bateau dragon. Je l'imagine bien remonter les cours d'eau en pagayant avec la même énergie qui la pousse à relever les défis jour après jour. Puis, je réfléchis à nouveau. Comment peut-on suivre les indications de l'entraîneur quand on sait que dans un bateau dragon, il se trouve à l'arrière? Aucune équipe de para-bateau dragon incluant des personnes sourdes n'existait déjà. Il fallait donc l'inventer. Qu'à cela ne tienne, Wendy a cherché des solutions pour rendre possible son rêve de participer à des courses de bateaux dragons. Elle a trouvé une interprète en langue des signes québécoise qui n'a pas peur de l'eau et qui accepte avec joie d'embarquer à l'avant du bateau. L'interprète est visible pour Wendy, mais aussi pour les autres rameurs vivant avec une surdité partielle ou complète. Parce que Wendy n'est pas juste une battante pour elle-même, elle est aussi une personne altruiste qui a l'inclusion de tatouer sur le cœur. Elle a ainsi créé en janvier 2024 une équipe mixte de bateaux dragons évoluant dans la division para-open petit bateau et qui fait partie du club 3R Dragon de Trois-Rivières. Citation. Nous sommes maintenant 6 personnes sourdes et possiblement 7 l'année prochaine. Il y a beaucoup d'intérêts qui se manifestent. Les autres handicaps sont des personnes en situation de diversité physique, par exemple, une absence des deux membres inférieurs, un qui manque seulement une jambe, une qui a eu un AVC et qui rame avec un bras paralysé. Le para, c'est vraiment ouvert à tous. Ça peut même être pour une personne TDAH. Fin de citation, ajoute Wendy, visiblement fière d'être la capitaine de cette belle équipe. Déjà, ils s'inscrivent dans l'histoire en remportant la médaille d'or au championnat CANAM de Welland en Ontario cet été. Une première au Canada. Paracuda est aussi la première équipe de Trois-Rivières, para ou non para, à gagner une médaille d'or à une compétition de niveau mondial. Le superbe logo de l'équipe représente un poisson de l'espèce des barracudas. Parfait pour concocter un jeu de mots avec le parasport, les dents pointues du poisson montrent que l'équipe est prête à attaquer tous les défis qu'ils rencontreront sur les plans d'eau. Curieuse, j'ai demandé à Wendy ce que le nom Paracuda évoquait pour elle. Sa réponse reflète tout son caractère compétitif. Citation. « Tassez-vous de là, on arrive les premiers, nous sommes compétitifs et on veut gagner. » Fin de citation, ajoute-t-elle en rigolant. Sérieusement. L'équipe vise une participation au championnat du monde de 2026 en Taïwan et soyons certains que le jour où ce sport entrera aux Paralympiques, Paracuda sera de la partie. C'était Paracuda, le fabuleux défi de Wendy. Un texte de Marisol Saint-Onge, paru le 8 septembre 2024 dans Le Quotidien.
Déjà une liste d'attente pour les appartements Libertois. Un texte de Patrick Vaillancourt, paru le 9 septembre 2024 dans L'Écho. La TUC. Au moment de l'inauguration officielle le vendredi 6 septembre dernier, 28 des 32 logements sociaux et abordables des appartements Libertois étaient occupés. Tous les logements seront habités à compter de novembre prochain, et on indique qu'il y a déjà une liste d'attente. C'était un moment attendu et important dans l'histoire latucoise alors que l'inauguration officielle des appartements libertois a été réalisée. Il s'agit d'un projet mis de l'avant en 2018 afin de procurer des logements sociaux destinés à des personnes vivant avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Un projet de plus de 14,2 millions de dollars, dont 7,3 millions provenaient du gouvernement fédéral et près de 4 millions du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec afin de payer une partie de l'appartement de chaque résident. La ville de Latuc a quant à elle accordé un rabais de taxes à l'organisme pour les 5 premières années. Les organismes La Source et Groupe Facile d'accès ont déménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui leur permet d'augmenter leurs offres de services aux locataires et à la population, en plus de bénéficier de locaux mieux adaptés aux besoins de leur clientèle. En plus des appartements et des locaux pour les deux organismes, on retrouve une grande salle communautaire, une salle d'entraînement, une salle de lavage et une salle multisensorielle qui demeure à bâtir. Ce sont Martine Caron du groupe Facile d'accès, Annie Desrosiers de La Source et Daniel Lavoie, l'ancienne présidente du conseil d'administration des appartements libertois, qui ont mené ce projet à bout de bras. L'organisme offrira un service de qualité pour les gens qui auraient du mal à se loger. Merci aux bénévoles et aux employés qui ont porté le projet à bout de bras. Vous aviez le même rêve. Bravo d'y avoir cru jusqu'au bout, exprime le conseiller Michel Pronovost, qui représentait le maire de Latuc, Luc Martel. L'organisme La Source a quitté ses locaux dans une maison désuète du boulevard du Charme pour élire son nouveau domicile dans un immeuble tout neuf. La différence est inexplicable pour la directrice Annie Desrosiers. Ça a été un choc de déménager, un choc positif, mais tout de même un choc. Nous avons pu créer 5 emplois avec les appartements libertois parce qu'on avait besoin de plus d'intervenants. Nous avons ici 3 personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, 3 avec un trouble du spectre de l'autisme et 5 personnes avec un handicap physique. Pour plusieurs, il s'agit de leur premier logement. Il s'agit de la 33e année d'existence du groupe Facile d'accès, un organisme en santé mentale dont 16 personnes de l'organisme demeurent maintenant dans le nouvel immeuble. Il y a toujours de la stigmatisation face à la santé mentale, et on croit que la visibilité des appartements libertois va grandement sensibiliser la population à la diversité des problématiques de notre clientèle. C'est un dossier qui nous tenait à cœur depuis des années, l'hébergement. Trop souvent, on entendait de garder nos fous chez nous parce que le propriétaire ne voulait pas louer son loyer. Ça m'affectait. Et je me suis dit que ce n'est pas vrai que ça sera de même à Latuc, exprime avec cœur Martine Caron. On est maintenant devenu un milieu de vie. Historique. C'est en 2018 que la démarche prend naissance à la suite d'une demande d'un parent d'une personne handicapée et que La Source se joint au groupe Facile d'accès pour le projet. Lionel Traversy, du groupe Logiloge, est alors mandaté comme ressource technique. En décembre 2021, les organismes obtiennent les lettres patentes pour la reconnaissance et l'acceptation du projet. Les travaux ont débuté le 19 avril 2022 et les premiers résidents sont entrés dans leur nouvel appartement le 3 juin 2024. C'est Philippe Bouliane qui est maintenant le président du conseil d'administration des appartements libertois. C'était déjà une liste d'attente pour les appartements libertois. Un texte de Patrick Vaillancourt, paru le 9 septembre 2024 dans L'Écho.
Nouveau marathonien, une histoire de courage et de persévérance. Un texte de Vanessa Limoges, paru le 9 septembre 2024 dans TVA Nouvelles. Un Rimouskois a complété son premier marathon dimanche dans la municipalité du Bas-Saint-Laurent, un exploit de taille pour le musicien de 33 ans qui a dû tout réapprendre après un grave accident de la route survenu il y a 6 ans. Citation. « Passer la ligne d'arrivée, c'est un des plus beaux feelings que j'ai ressenti de ma vie. Les 100 derniers pieds, j'ai comme vu ma vie défiler. J'ai vu les dernières années de ma vie, de ma réadaptation. » Fin de citation, a raconté Maxime Dastou avec émotion. En décembre 2017, le Rimouskois a été impliqué dans un grave accident de la route. Il a alors subi un traumatisme crânien avec lésion axonale diffuse, une blessure qui engendre souvent des séquelles graves. Après avoir été plongé dans un coma artificiel et avoir subi une importante opération au niveau des vertèbres, il a été alité pendant plusieurs semaines. Ensuite, il a commencé sa réadaptation et du même coup défié tous les pronostics. Citation. Il a fallu que je réapprenne tout, à marcher, à parler, à chanter, à lire. Pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai été en réadaptation physique et mentale aussi. Fin de citation, a-t-il indiqué. Un peu plus de 2 mois après l'accident, Maxime Dastou marchait à nouveau et 7 mois plus tard, il participait à une épreuve de course de 1 km. Depuis 2 ans, sa réadaptation est terminée et il a décidé de vivre différemment, plus simplement. Il s'est départi de sa maison pour vivre dans un van et parcourir le monde. Citation. C'est simple. J'ouvre ma porte et j'ai un nouveau paysage tous les jours. Je trouve ça incroyable. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis mis à la course à pied. J'ouvrais ma porte et j'allais courir un 5 km, un 10 km. Ça a facilité ma réadaptation en quelque sorte. Fin de citation. A-t-il ajouté. L'homme de 33 ans, qui est aussi un musicien bien connu dans la région, souhaite continuer de « faire du bien » avec sa musique. Citation. Je n'ai pas fait de scène depuis l'accident. Possiblement qu'un jour ça va revenir dans ma vie. J'aimerais ça, mais pour l'instant, je veux écrire mon album et mettre des chansons qui rendent de bonne humeur, des chansons qui parlent d'amour. Fin de citation, a raconté Maxime Dastou. Il veut aussi inspirer en partageant son histoire. Citation. On me disait que probablement je ne marcherais plus et de franchir cette ligne d'arrivée-là. Ça dit, OK, on est capable. Fin de citation, a-t-il lancé. C'était Nouveau marathonien, une histoire de courage et de persévérance. Un texte de Vanessa Limoges, paru le 9 septembre 2024 dans TVA Nouvelles.